Chapitre 51. Christian Boltanski. Archive-toi. Ton père et moi avons quelque chose à te dire. Mona savait que cette phrase n'annonçait rien d'agréable. Paul, appuyé contre un meuble, avait la tête inclinée et une mine contrite. Sa fille s'étonna qu'il ne la regarde pas dans les yeux. Il prit la parole d'une voix faible. Ça n'a pas été une décision facile, ma chérie. Mais voilà, je vais céder la brocante. Ton père, enchaîna Camille pour éviter le moindre silence, vient de signer un très beau contrat pour son invention. Il a rencontré des tas de gens qui croient en lui et vont l'aider à ce que ça marche. Et il ne peut pas garder la boutique en même temps. La nouvelle était en soi excellente. Mais elle frappait de plein fouet le quotidien de Mona, pour qui la brocante avait été la maison de tous les rêves. Cosmos couina et remua la queue, sentant que sa maîtresse allait pleurer. Elle ne sut rien faire d'autre que le serrer dans ses bras comme s'il s'agissait de son dernier compagnon au monde. Puis elle dévisagea ses parents. « Est-ce qu'on peut y aller, papa ?»« Où ça, chérie ?»« Dans la cave de l'arrière-boutique. » Mona savait ce que cette session signifiait. Elle visualisait ses peines futures, les lieux à vider, le défilé des offres, un nouvel exploitant entre les murs. Elle voyait que tout ce qui était à venir serait bientôt advenu, jusqu'à transformer le présent en empreinte des jours passés. Ce n'était cependant pas le pire. Une douleur surpassait toutes les autres, celle qu'on puisse liquider le contenu de la cave. Cette cave noire qui lui avait fait peur si longtemps et qui était devenue le sanctuaire où reposait la trace de Colette. Mona conduisit donc ses parents tout au fond de l'arrière-boutique, fendit l'obscurité et descendit au sous-sol comme elle aurait plongé dans des catacombes. Cosmos jappait.
« Et tout ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces cartons qui sont plein de choses sur mamie? Où est-ce que vous allez les mettre? Si vous les jetez, je vous détesterai. »
« Arrête, Mona !» rétorqua sa mère avec fermeté. « Comment peux-tu croire que je vais expédier la mémoire de ta grand-mère ?»«
Mais où est-ce que tu vas les mettre, ces cartons? Il y en a des kilomètres. Si tu les jettes, maman, je te déteste !»«
Mona !» intervint calmement Paul. « Je ne vais pas te mentir. C'est vrai qu'on ne sait pas trop pour le moment ce qu'on va bien pouvoir faire de tous ces vieux papiers, mais... »«
Arrête de dire que ce sont des vieux papiers, papa. C'est un trésor, je le sais, moi. Je le sais que c'est un trésor !»
Tout le monde se tut. Mona reprit son calme et attrapa le bras de son père. Elle était quand même drôlement fière d'être la fille d'un tel homme, et du haut de ses 11 ans, elle mesurait le chemin que lui aussi, comme elle, avait parcouru en 1 an. Et puis, changeant brutalement d'humeur, elle sursauta, traversée par une révélation soudaine.
« Papa, maman, j'ai une idée !»
C'était l'avant-dernière fois que Mona et son grand-père se retrouvaient au musée. Henri dissimulait mal la grisaille qui s'était emparée de son âme et qui matraquait son cœur. Celui-ci battait curieusement. Parfois il tambourinait avec une exagération encombrante, parfois il se recroquevillait dans son coin et se faisait si discret qu'Henri se demandait s'il travaillait encore. Devant Beaubourg, sur l'esplanade, un trompettiste, les joues énormes, interprétait le concerto d'Aaron Ruess, de Joaquin Rodrigo. Mona prit une main de son grand-père entre ses deux paumes et l'approcha de ses narines. Comme cela sentait bon l'eau de Cologne. La trompette poursuivait son chant cuivré. Mona leva les yeux vers son aîné d'un air à la fois malicieux et implorant.
« Dadé,
lui dit-elle,
chez toi, c'est un bel appartement où il y a de la place. » Alors que chez nous, c'est tout petit, tu sais. Comme ils ont décidé d'arrêter la brocante, papa et maman doivent mettre toutes les boîtes quelque part. Dadé, je t'en supplie, prends-les chez toi et écris un livre sur mamie, sur elle, sur ses aventures, sur toi, sur vous.
La demande de Mona lui fit l'effet d'un électrochoc. Dans sa tête, affluèrent les millions d'impressions et d'émotions d'une existence entière. Et ce torrent, si chaotique qu'il fût, lui sembla avoir un sens, le sens de la vie. Il reprit ses esprits et entraîna Mona à la rencontre d'une grande installation de Christian Boltanski. Étalée sur 3 murs, 20 vitrines identiques, on aurait pu dire 20 caissons, de 150 cm de hauteur, 87 cm de largeur et 12 de profondeur, s'enchaînaient avec régularité. Il y en avait 2 x 7 accrochés sur les parois latérales et 6 sur la paroi frontale. Imposantes, elles étaient dotées d'un cadre sombre, avaient un éclairage au néon intégré dans leur partie supérieure, un grillage rectiligne extrêmement fin semblable à un tamis pour protéger leur contenu, et elles se trouvaient séparées les unes des autres par un très faible interstice. Chacune d'elles était surchargée de documents de toutes sortes. Il y avait surtout de nombreux papiers manuscrits ou dactylographiés plus ou moins grands, plus ou moins froissés, et des photographies en couleur ou en noir et blanc. C'était des courriers, des imprimés, des enveloppes, des polaroïdes, aussi bien des portraits d'enfants que des paysages, et puis des griffonnages, d'autres choses encore. Le tout datant de la seconde partie du XXe siècle. Les vitrines faisaient songer à ces grands murs d'images dont raffolent les films policiers, avec leurs panneaux entièrement recouverts de signes visuels et textuels, et où une enquête, une énigme, un crime se trouvent cartographiés. Mona savait qu'on lui prêtait des facultés visuelles exceptionnelles. Et pourtant, devant cette installation, elle se sentait vaincue. L'œuvre était tellement saturée d'objets que les radars de la perception de l'enfant en étaient brouillés. Elle comprit très vite qu'il serait vain de vouloir tout attraper et tout assimiler de toutes ses vitrines. « La vie impossible de CB » était-il titré. Et en effet, s'il y avait bien quelque chose d'impossible, c'était d'espérer absorber une telle matière pour recomposer une existence. Elle alla donc de détail en détail, au hasard, à tâtons. Ici, une missive en anglais. Là, l'invitation rose-orange à une projection cinématographique de Roman Polanski. Ailleurs, le plan de la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Ailleurs encore, un photomaton d'un homme aux cheveux courts. Sans doute l'artiste lui-même.
« C'est un murmure, tout ça !» finit-elle par murmurer elle-même. « Ou plutôt, c'est un brouhaha, mais un brouhaha qui murmure. »
« Explique-moi, Mona. »
« En fait, Dadé, parfois on voit bien qu'une œuvre a un sens. Et dans ce cas, c'est comme si elle avait la parole. Quand Cézanne peint une montagne, c'est comme si le tableau disait « Je suis une montagne ». Mais parfois, une œuvre, on pourrait croire qu'elle est muette. Par exemple, dans un tableau abstrait, c'est un peu comme s'il se taisait. Mais là, c'est différent. « Regarde, Dadé, partout il y a des mots, des textes. Et c'est joli d'ailleurs tous ces mots. C'est impossible de les lire, en tout cas, de les lire tous. Alors on les regarde et on glisse dessus et c'est tout. Et c'est pareil pour les images dans les vitrines. Moi, ces têtes, ça me fait souvent penser à quelqu'un, mais j'ignore qui est la personne, qui pourtant murmure à mes oreilles. »
« Un mur de murmure. C'est vrai, Mona. » Tu sais, bien souvent, devant la production d'un artiste, la question qui s'impose est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, je me la pose même tout le temps.
C'est normal. Parfois, on décrypte une signification. Parfois, c'est inutile ou impossible. Et là, c'est un murmure. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça veut dire. Je te le répète, Mona, écoute attentivement. Ça veut dire que ça, il appuya sur le pronom, veut dire. Non pas ça veut dire ce que ça veut dire, formule qui clôt la discussion, pas du tout. Mais bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça ne le dit pas tout à fait parce que ça dit trop ou trop peu. Et que c'est tellement difficile de vouloir dire, de savoir dire, de dire ce que l'on veut dire. Voilà pourquoi, comme tu l'exprimes si bien, cette installation murmure. Elle dit qu'elle aimerait dire quelque chose, sans peut-être savoir vraiment quoi. Dadé, c'est incroyable. Parce qu'au fond, moi, je crois que tous les œuvres sont un peu comme ça. On sent qu'elles sont pleines de symboles, qu'elles racontent des tas d'histoires. Mais qu'on n'en perçoit qu'une toute petite partie.
C'est ça.
Et ce qui est fondamental, ce n'est pas seulement de percer des énigmes, c'est encore et surtout de sentir qu'elles abondent en significations cachées, que ces significations affleurent, s'agitent avant de se dérober. Alors l'œuvre reste éternellement ouverte. Mona ouvrit de grands yeux ronds. Elle avait soudain l'air à la fois heureuse et désolée. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Henri. « C'est tellement beau quand tu m'expliques, Dadé. C'est triste parce que moi, je serais incapable d'être à ta hauteur. Jamais de la vie. »
Le vieil homme contempla les vitrines d'archives et se remémora un instant la trajectoire de Christian Boltanski. Contrairement à ce que laissait penser une œuvre si monumentale, d'apparence si grave, si organisée et si sérieuse, l'artiste avait d'abord été un enfant très étrange et asocial. Dans sa jeunesse, il ne parlait pas, et comme un schizophrène, passait des journées entières sans sortir de chez lui, à façonner simplement des milliers de petites boules de terre. Henri décrivit à Mona les premières œuvres de l'artiste, d'un registre plutôt saugrenu, avec des tableaux burlesques et des marionnettes. Puis il raconta son basculement à partir des années 1980, quand il gagna en notoriété avec ses accumulations majestueuses de boîtes en métal, dépositaire de milliers d'archives souvent traversées par la mémoire de la guerre. « Qu'est-ce qu'une vie ?» poursuivit Henri d'un ton presque mystique. « Et qu'en reste-t-il au bout du bout ? Des souvenirs, bien sûr, et une empreinte diffuse sur d'autres vies. Mais devant cette œuvre de Christian Boltanski, il y a quelque chose d'à la fois beaucoup plus simple et d'infiniment plus complexe. Alors dis, Mona, que reste-t-il d'une vie ?
Bah, en fait, Dadé, il en reste des objets, des tas d'objets, des lettres, des photographies, des cartes, des tickets, comme on en voit ici, et comme on pourrait en trouver dans les malles de n'importe qui. Moi, je sais que dans les cartons de mamie, il y avait plein de journaux qui parlaient d'elle et de l'euthanasie.
Il n'y a pas que cela de ta grand-mère.
Ah, il y a aussi mon pendentif.
Oui, c'est vrai. Dans ces cartons, comme dans l'œuvre de Christian Boltanski, ta mère et moi avions rangé presque tous les petits riens, les petits restes qui demeuraient d'elle. Sais-tu qu'elle adorait les cendriers des bars d'hôtel ? Je me rappelle à l'époque, elle se débrouillait pour les chiper. Il sourit à ce souvenir. Une fois, tandis qu'elle s'éclipsait du Bristol, un serveur lui fit remarquer que son sac à main fumait. Il s'interrompit dans un rire tonitruant. Mona se jeta sur son grand-père, l'enlaça, respira fort l'odeur de son eau de Cologne. Au milieu des questions de Christian Boltanski, elle comprima son front contre son sternum, puis se mit à aller d'avant en arrière pour le frapper doucement, en cadence, comme si elle cognait avec la tête à la porte de son cœur.
« Je t'en supplie, Dadé !»
Elle voulait le convaincre d'écrire ce livre sur Colette Villemain. Poursuivons, Mona. Ce qui reste d'une vie, ce sont des objets, des tas d'objets qui ont eux aussi leur vie propre. Ce sont des choses, des petites choses qui n'ont parfois même plus de nom tant elles sont usées, cassées, fragmentées. Mais même dans un encrier de collégien ou dans un trèfle à quatre feuilles, tu peux rêver des univers entiers.
« Des univers entiers !» répéta Mona.
Elle fut alors prise de vertige devant l'œuvre de Boltanski,
car elle aperçut, en chacun des éléments qui la composaient, un carrefour entre une multitude de couloirs du temps.
Elle sentit, par une intuition métaphysique, que la moindre unité de matière était chargée d'existence, en débordait à l'infini. Dans la moindre unité de matière vibrent tous les regards qui sont passés sur elle, toutes les sensations qu'elle a suscitées, tous les frôlements d'air qui l'ont caressée, toutes les ondes sonores qui l'ont entourée, toutes ses métamorphoses et toute sa persistance à être ce qu'elle est. Or, toutes ces unités communiquent entre elles, dans un réseau de signifiés tellement fou, tellement riche qu'il en est inaudible. Ainsi le murmure.
Dans cette œuvre de Boltanski, reprit Henri, il faut aussi examiner la lumière.
Oui, Dadé, je vois ce que tu veux dire. Habituellement, la lumière vient éclairer une sculpture ou un tableau. Mais là, c'est différent. La lumière est à l'intérieur des vitrines. C'est comme si l'œuvre était...
auto-éclairé, c'est ça, Mona.
Les caissons gardent sans cesse leur lumière en eux, aurait dit mamie. Mais c'est variable. Il y a des lettres et des photos qu'on voit très bien, et d'autres qui sont presque invisibles parce qu'elles sont placées dans l'ombre. C'est un peu comme avec le clair-obscur de Rembrandt, je trouve. Et puis d'ailleurs, puisqu'il y a partout des choses qui appartenaient à l'artiste, on pourrait dire que c'est un autoportrait. Bon, à ceci près qu'un autoportrait, c'est facile de le regarder d'un coup en une fois. Alors que là, si on voulait tout lire, tout examiner et tout relier, ce serait impossible.
Oui, et d'ailleurs, Boltanski n'est pas du tout attaché à l'idée qu'on puisse reconstituer sa vie ni sa personnalité. L'œuvre s'apparente à une sorte d'autoportrait conceptuel, mais ce n'en est pas vraiment un. Ce qu'il souhaite, c'est que tout le monde, toi et moi compris, puisse reconnaître ce qu'est sa propre vie dans ce qu'il expose en ayant archivé la sienne.
« Archive-toi !»
murmura Mona. « On peut le dire comme ça. Il faut s'archiver soi-même. Car qui que l'on soit, héros ou anonyme, visible ou invisible, c'est dans l'archive de soi qu'on peut faire scintiller la mémoire du passé.
Tu crois que je disais ça de façon générale, Dadé? Mais je te le disais à toi. Récupère toutes les boîtes sur mamie et raconte tout sur elle et toi dans un livre. Archive-toi, s'il te plaît, Dadé.